Bonjour tout le monde et bon dimanche à tous. En ces derniers dimanches du mois de mai, hein, où nous sommes en train de réfléchir par rapport à la fin de l'Exode, nous avons bien sûr fini avec Facebook Live vendredi. Et aujourd'hui, nous reprenons la prédication qui était le texte qui était proposé, qui est le chapitre 32 du livre d'Exode. Et donc, je vous invite à la lecture. Vous pouvez marquer une pause et lire ce chapitre 32 dans sa totalité. Le dimanche passé, on avait eu avec le pasteur Kiss sur les textes des 10 commandements, donc Exode chapitre 20, les 10 commandements, les décalogues. Et dans les décalogues, il y a une précision que Dieu il fait en disant: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux en bas de la terre. Et puis le verset 5 donne une précision: tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, et ainsi de suite. Il y a deux types d'idoles dans la Bible. Il y a d'abord le faux Dieu, et ces faux dieux-là, on voit Baal, par exemple, le Dieu de la pluie, le Dieu de la fécondité, et puis on a aussi Marzouk, le Dieu des Babyloniens, mais il y a aussi les images du vrai Dieu, c'est-à-dire Adonai, comme avec les veaux d'or. Donc ces dieux-là et ces deux types d'idoles qui s'opposent au vrai Dieu. Même s'il y a une représentation des dieux dans les images qu'on peut faire, mais ça s'oppose au vrai Dieu. Donc il faut donc, selon les décalogues, renoncer à ces dieux-là pour être en relation avec le seul et unique maître qui est Adonai. Donc au verset 5 d'Exode chapitre 20, il est dit comme si tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne les serviras point et tu ne seras pas esclave de ces dieux-là. Les idoles font retourner Israël en esclavage. Mais pourquoi les peuples demandent-ils un Dieu? Les versets premier du chapitre 32 nous donne un élément de réponse. Moïse tardait à descendre. Et puisque Moïse tarde à descendre, alors le peuple va dire à Aaron: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Donc il y a d'un côté l'absence de Moïse, donc une absence qui insécurise, hein. Et puis de l'autre, un Dieu, donc le Dieu de Moïse, qui est un Dieu invisible, un Dieu qu'on voit avec la nuée, mais il ne se fait pas voir. Donc c'est ce double manque que le peuple va vouloir combler en désirant un Dieu matériel, que l'on peut voir, qu'il est là, qui va conduire le peuple vers la destination promise. C'est la volonté de calmer son angoisse qui pousse Israël à donner naissance à un Dieu matériel. Donc le veau d'or est simplement une projection de l'angoisse d'Israël qui veut se rassurer en ayant un Dieu visible. D'ailleurs, c'est marrant de voir Israël qui se prosterne devant ses veaux. Israël se prosterne devant ses propres angoisses, devant ses propres peurs, alors qu'il croit rendre gloire au Dieu unique et au Dieu véritable. Donc le veau d'or, le jeune du taureau, hein, c'est un taurillon, hein, c'est l'image de la puissance dans la Bible. Et même dans les proches Moyen-Orient anciens. Donc c'est l'image de la puissance. Parce que le taureau, le taurillon, a la capacité de féconder les vaches. Donc, il y a une richesse en perspective. Donc, on aura des générations et des générations de vaches et de veaux qu'on pourra continuer à élever et à gagner de l'argent. Donc, on sait que c'est une vie en perspective. Mais il a aussi en même temps la capacité de tuer. Pas comme un lion, hein. Un lion, il va tuer quelqu'un, hein, pour pouvoir le manger, parce que c'est un carnivore. Mais alors que le taurillon, c'est un herbivore, quoi. Il tue juste pour tuer. Donc le taureau est carrément cette image de la puissance qui peut donner la vie par la fécondité et en même temps qui peut donner la mort en tuant quelqu'un. Donc c'est ça l'image du Dieu d'Israël d'ailleurs. Car lors de la sortie d'Égypte, hein, souvenez-vous, hein, Dieu était capable de donner la mort aux Égyptiens avec la mer Rouge et donner la vie aux enfants d'Israël par la traversée de la mer Rouge. Et au mont Sinaï, que voient les peuples? Les peuples, ils voient un Dieu qui se manifeste par la nuée d'orage. L'orage amène la vie par la pluie et l'orage amène la mort par la foudre qui frappe. Donc les veaux représentent bien l'image du Dieu d'Israël, mais ça ne représente qu'une image qui est la puissance. Et parce que j'ai peur, j'imagine un Dieu puissant. Je projette mon angoisse vers un Dieu puissant pour me rassurer et me permettre de m'en sortir. Et c'est ça le vrai problème de l'idolâtrie. C'est que l'idolâtrie, dans l'image de Dieu, c'est que l'idolâtrie ne représente qu'une facette de Dieu. Alors que Dieu est un Dieu puissant, bien sûr, mais il est aussi un Dieu bon, il est aussi un Dieu saint, il est aussi un Dieu exigeant, il est aussi un Dieu compatissant, il est aussi un Dieu de l'alliance, hein, qui respecte son alliance, il est un Dieu omniprésent, présent partout, omniscient, qui connaît tout, il est un Dieu omnipotent, dans toute puissance. Il y a tout un ensemble de facettes qui fait que Dieu est Dieu comme il est. Et toutes ces facettes-là, nous ne les connaissons pas. L'islam dit qu'il y a 99 facettes de Dieu, mais Dieu est plus que les 99 facettes que l'islam présente. Donc Dieu est tout puissant. Et donc l'idolâtrie, c'est de prendre Dieu et de le limiter dans 2, 3, 4 ou même 99 facettes de Dieu. Et du coup, on tombe dans l'idolâtrie parce qu'on ne voit Dieu que dans cette facette-là. Avec les veaux d'or, toutes ces facettes de Dieu sont complètement effacées pour donner place à la seule facette de Dieu qui est la puissance. Donc, en résumé, si je peux dire ceci, c'est que l'idolâtrie, pour être idolâtre, pardon, pour être idolâtre, il suffit juste de réduire Dieu à une des facettes qui m'arrange, à quelque chose qui vient à moi sans m'enfermer en moi-même. Il y a ma batterie qui est faible. Je pourrais dire, faisons Dieu à notre image. Ces divinités que nous produisons par notre peur, par nos angoisses, par notre convoitise, parce que j'ai envie de gagner de l'argent, alors je veux un Dieu qui donne beaucoup. J'ai envie de me marier, alors je veux un Dieu qui. Donc on fabrique des dieux comme ça à cause de notre désir et d'être sans manque en croyant s'adresser à Dieu. On s'enferme en soi-même et sans s'en apercevoir. Donc, du coup, l'idolâtrie est une illusion, est une forme d'illusion, hein, qu'on se fait de Dieu. C'est pour ça que le premier commandement est celui-là qui nous met en garde. Faites attention, n'allez pas vous faire des illusions sur Dieu. Laissez qu'il y ait un manque, une forme d'incertitude, car l'incertitude est le lieu où s'est bâtie la confiance en Dieu. C'est le ciment même de l'alliance. Toute alliance a besoin de confiance en l'autre, en sa parole. Moi, je suis marié avec ma femme. J'ai promis à ma femme d'être son mari jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais quelle certitude a-t-elle que je respecterai ma parole? Mais elle est obligée dans l'alliance de faire confiance en la parole donnée. L'alliance, c'est confiance à la parole donnée. Et à plus forte raison pour Israël ici. Dans cette alliance, la parole donnée est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Freddy qui peut faillir, mais la parole de Dieu. Dieu qui dit une chose, il l'accomplit. Donc la peur, l'angoisse, l'incertitude sont des lieux où on peut habiter, mais avec la confiance en un Dieu dont l'alliance est une source de vie et de liberté. Israël doit apprendre à faire confiance en Dieu. Vous et moi, quels sont nos manques? Quelles sont les choses qui nous manquent? Et quels sont ces manques-là qui nous poussent à nous fabriquer de Dieu et à nous fabriquer des images de Dieu, pas de regarder Dieu dans toute sa puissance? L'autre chose que j'aimerais dire, c'est Moïse. Moïse, quand il est en haut, Dieu va lui dire, quand on regarde dans les textes, hein, au verset 9, l'Éternel dit à Moïse, le peuple s'est retourné, et au verset 10, il va dire, « Maintenant, laisse ma colère s'enflammer contre eux. » Et au verset 19, Moïse qui va s'enflammer de la colère. Moïse, il va calmer Dieu en disant à Dieu, « Non, ne te mets pas en colère, c'est peuple toujours comme ça, si tu fais ça, ne le fais pas. » Il intercède pour le peuple. Mais quand il descend, il voit à quel point les péchés abondaient. Moïse s'enflamme, il prend la colère de Dieu. Moïse, il prend la place de Dieu et il fait un jugement à la place de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous devons faire attention en tant qu'intercesseurs. Quand nous prions pour les autres, ne prenons pas la place de Dieu. Quand nous prions pour que Dieu pardonne les péchés d'un pécheur, et quand nous rencontrons ces pécheurs-là et on voit à quel point les pécheurs pêchent, ne prenons pas la décision de rendre les jugements à la place de Dieu. L'intercesseur est celui qui prie et qui apaise Dieu et qui demande à Dieu de faire quelque chose. Et laissons Dieu, parce que Dieu il dit, c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à l'intercesseur de rendre la vengeance ou de faire la rétribution. Et là, Moïse va faire quelque chose de grave. Et puis, il va se ressaisir après, quand il va remonter encore à nouveau, à partir du verset 25, quand il va remonter pour à nouveau intercéder auprès de Dieu. Le seul intercesseur qui n'échoue pas, c'est Jésus lui-même, qui prie et qui pardonne vraiment. Là, on voit bien que Moïse a échoué. Donc, notre manque nous pousse à nous fabriquer de Dieu. Et puis, notre intercession peut nous pousser à vouloir prendre la place de Dieu. Et il nous faut carrément faire attention. Et la dernière chose que j'aimerais souligner, c'est le rôle que va jouer Aaron. Aaron va dire, j'ai tout mis, les ors ensemble et une idole est sortie, un veau est sorti. Il y a quelque chose qui est arrivé et je n'ai pas compris comment et je n'ai pas compris pourquoi. Aaron lui-même, parce qu'il y a la pression du peuple qui veut avoir une facette de Dieu et qui veut avoir Dieu qui agit que à sa manière, Aaron qui est le prêtre, au lieu de reprendre le peuple et de dire au peuple, voilà ce qu'il faut faire, que va faire Aaron? Aaron, il va répondre aux besoins du peuple en lui fabriquant le Dieu à son image. Dans Genèse, on dit, faisons l'homme à notre image. Ici, Israël va dire, faisons Dieu à notre image. Et Aaron va être cette personne qui va le faire. Et ça m'interroge en tant que pasteur. Et vous et moi, en tant que chrétiens, qui sommes appelés à conduire les autres à connaître la vérité. Et parfois, notre vérité est biaisée parce que les gens, ils veulent voir un Dieu à leur manière. Quelqu'un peut venir pour demander une guérison. Et du coup, je présente à la personne que le Dieu qui guérit, et je ne lui présente pas un Dieu jaloux, un Dieu tout-puissant, un Dieu compatissant, un Dieu... Et on a besoin de comprendre Dieu dans toute sa splendeur. On a besoin de parler de Dieu plus qu'une simple facette. Et c'est ça qui fait que l'évangile de la prospérité va prospérer, parce qu'on regarde Dieu d'un seul côté. Et quand on a le cancer, qu'on ne guérit pas, on ne peut plus accepter cela, parce que pour nous, Dieu est toujours celui qui guérit. Alors qu'il y a des gens comme Élisée, le grand prophète, il est mort avec la maladie qu'il avait. Est-ce qu'on n'a-t-il pas cru en Dieu? N'a-t-il pas eu espoir en Dieu? Il a eu l'espoir en Dieu. Il a continué à croire en lui, à lui faire confiance. Parce que Dieu n'est pas seulement la facette de celui qui guérit. Dieu est aussi, c'est Dieu qui accompagne, même dans la souffrance, et qui est prêt dans la souffrance. C'est important de voir Dieu dans toute sa facette. Quand nous regardons Dieu dans une seule facette, nous finissons par être idolâtres. Et si nous voulons répondre aux besoins de ce monde avec une seule facette de Dieu, nous conduirons les gens dans l'idolâtrie. Et si nous voulons apprendre à intercéder, nous devons apprendre à intercéder et à parler à Dieu et Dieu seul, sans prendre toute la colère de Dieu, sans prendre la place de Dieu. Et voilà ce que je pouvais dire dans cet exode 32. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accompagne, Et bon mois de juin à tous. Et vraiment que le Seigneur nous apprenne à ne pas être idolâtres et à ne pas conduire les autres dans l'idolâtrie, mais à être des bons intercesseurs. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.